Donc, la question des relations fournisseurs, c'est effectivement un sujet de plus en plus d'actualité qui a donné lieu à l'apparition du livre. Donc, je vous propose de l'aborder en plusieurs points. D'abord, le constat qui a conduit à écrire ce livre et à proposer des pistes de solutions. Ensuite, qu'est-ce qui caractérise la relation avec les fournisseurs IT? Alors, fournisseurs IT au sens large, hein, les ESN, les éditeurs, les consultants, les fabricants de matériel. Donc, j'ai couvert l'ensemble des fournisseurs. Donc, qu'est-ce qui caractérise la relation fournisseur? Ensuite, pourquoi cette problématique est devenue vraiment très cruciale aujourd'hui? Et puis, on verra enfin ce qui a changé depuis quelques années et qui a contribué à transformer profondément la relation fournisseur. Alors, d'abord, le constat, en fait, il est né de discussions récurrentes depuis un certain nombre d'années avec des DSI ou des juristes, et à chaque fois, on avait ce sujet récurrent de difficultés avec les fournisseurs, pas forcément des conflits, mais des difficultés, ça ne se passait pas toujours très bien. Et il y a une dizaine d'années, j'avais lancé une initiative qui consistait à noter les fournisseurs sur le même modèle que la notation financière, avec le triple A, le triple B. Donc on avait lancé cette initiative qui a pas vraiment réussi, parce que peut-être que la maturité des uns et des autres n'était pas encore là. Mais le principe, donc, c'était de demander aux DSI de façon anonyme de noter les fournisseurs en fonction des projets qu'ils avaient menés. Et on aboutissait à une grille de notation que j'ai repris d'ailleurs dans le livre, où vous la trouverez, hein, une grille qui peut vous aider à faire du scoring de fournisseurs. Et à l'époque, on avait simplement un fournisseur sur cinq qui était noté triple A, donc qui était considéré comme très bon dans tous les domaines. Donc ce n'était pas beaucoup. Donc c'est un premier point, c'est. Ce sujet est récurrent depuis plusieurs années quand on discute avec les DSI. Et il y avait un deuxième constat qui est lié à la question suivante. Comment ça se fait que, à l'heure où on n'a jamais eu autant de bonnes pratiques, de référentiels, de retours d'expérience, de cas d'usage, il y en a plein, comment se fait-il que le taux d'échec des projets ne diminue plus? Alors, je me suis appuyé sur les statistiques d'un cabinet qui s'appelle Standish Group, et j'ai appelé ça le paradoxe des bonnes pratiques. On a d'un côté de plus en plus de bonnes pratiques, et puis, logiquement, ça devrait faire diminuer le taux d'échec des projets. Alors, les échecs, c'est dépassement de délai, dépassement de budget, et puis tous les problèmes qui peuvent survenir. Donc, comment ça se fait? En fait, une des raisons que l'on peut avancer, c'est que, bien souvent, la relation avec les fournisseurs est mal maîtrisée à plusieurs niveaux. Si on prend la définition d'une entreprise ou d'une organisation en général, il y a cinq composantes. On peut dire que ce sont des individus qui s'intègrent dans une organisation. L'organisation est caractérisée par des pratiques managériales spécifiques, avec des technologies qui sont en place, et l'organisation et l'entreprise interagissent avec son environnement. Et à partir de tous ces niveaux, il y a un certain nombre de biais, en fait, qui altèrent la qualité de la relation avec les fournisseurs. Alors, au niveau des individus, on connaît les biais cognitifs, c'est classique, hein, ils sont très nombreux, il y en a plus de 250, je crois. Et ça se traduit, par exemple, par des analogies trompeuses, des conclusions hâtives à partir de faits partiels, une aversion au risque ou des biais de confirmation, hein, qui consistent à prendre les idées qui vont dans notre intérêt et à rejeter ce qui est contraire à nos opinions. Au niveau de l'organisation, on trouve des processus trop lourds, des mauvaises allocations de ressources, ou aussi, bien sûr, la complexité du système d'information. Sur le plan des pratiques managériales, eh ben là, on a des multiples centres de décision, des partages de responsabilités qui ne sont pas très clairs, une gouvernance qui est déficiente, voire même des conflits entre les parties prenantes. Sur le plan des technologies, on voit que souvent, on retrouve encore ça, il y a une surestimation de la création de valeur qui est apportée par les technologies, et puis surtout des difficultés d'intégration avec les systèmes existants, avec le legacy. Et puis enfin, sur l'aspect environnement, on trouve souvent des analyses, enfin des mauvaises anticipations des dépendances, on le voit avec les chaînes logistiques, ou alors une mauvaise appréciation de l'évolution de l'environnement qui conduit, par exemple, à investir trop vite ou pas assez, ou trop. Donc il y a tout un tas d'éléments qui font que la relation fournisseur se trouve un peu altérée dans la réalité. Alors, comment on peut caractériser la relation fournisseur? En fait, c'est ce que j'ai repris dans le livre, avec quatre grandes parties. Donc, il y a quatre dimensions de la relation fournisseur. Il y a d'abord la dimension stratégique, la dimension commerciale, la dimension contractuelle et la dimension gestion de projet. Donc, ces quatre dimensions, ça correspond en gros aux quatre grandes questions que les entreprises se posent avant de lancer un projet. C'est: que veut-on faire? Avec quel fournisseur? Dans quelles conditions? Et pour quel résultat? Et donc, on retrouve ces quatre points clés qui caractérisent n'importe quel projet dans lequel des fournisseurs interviennent. C'est la vision, la négociation, la contractualisation et l'exécution, si on peut résumer la relation fournisseur. Donc le livre, il est conçu sous forme de questions-réponses en fonction de ces quatre dimensions. Alors, sur la dimension stratégique, j'aborde les aspects outillage pour optimiser le sourcing, l'organisation de la fonction achat, alors qui n'est pas uniquement dans les directions achat, mais la fonction achat au sein des DSI. Comment on fait de la veille sur les solutions et les fournisseurs, comment on collabore avec les startups, on y reviendra tout à l'heure. Sans oublier, bien sûr, l'intérêt des clubs utilisateurs, et ça c'est un chapitre, c'est une question à part entière, c'est: faut-il faire partie d'une association de DSI? Ben, la réponse est évidemment oui, et donc il y a plusieurs modèles, et il y a notamment ce que j'appelais le modèle vertueux, dans lesquels on retrouve la DIRA, mais aussi le SIGREF ou l'USF, dans lesquels il y a des vraies capacités d'influence, de partage d'informations. Donc là, voilà, la dimension stratégique, elle est importante. Et en gros, ça se résume à définir une politique de sourcing en fonction de quatre principes. D'abord, cadrer. C'est-à-dire qu'on définit les objectifs et en fonction du contexte et des contraintes. Mesurer, ça suppose un outillage adapté. Collaborer, à la fois en interne avec les directions des achats, la direction juridique, mais aussi en externe dans le cadre de partenariats ou de co-innovation avec les fournisseurs. Et puis formaliser tout ça avec une gouvernance adaptée. Donc ça, c'est la première dimension, la dimension stratégique. Pour la dimension commerciale, ben, j'aborde des sujets relativement classiques qui sont peut-être plus connus et plus maîtrisés. C'est comment on fait un appel d'offres, comment on sélectionne les fournisseurs, comment on gère les risques. Sur la dimension contractuelle, là aussi, on a des choses qui sont assez connues, hein, les principes contractuels à connaître dans le cadre de contrats. Pour l'achat de solutions logicielles ou de maintenance ou de contrats d'outsourcing. La spécificité des contrats cloud, parce qu'il y a quand même là une évolution majeure dans ce domaine. Comment on gère les contenus, les conflits et comment on négocie avec les fournisseurs, puisqu'il y a tout un processus de négociation dans la démarche d'achat. Et puis sur la partie gestion de projet, qui est la quatrième grande partie, ben là, on s'intéresse au pilotage des fournisseurs, à la gestion des risques, bien sûr, et aux modes de collaboration qu'on peut mettre en place pour délivrer les projets dans les meilleures conditions. Alors, pourquoi ce sujet de la relation fournisseur est devenu plus important aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs effets qui se combinent. Il y a d'abord un effet quantitatif. On voit que les dépenses en technologie de l'information continuent à progresser. En 2023, ça sera 4% au niveau mondial Au niveau européen, mondial, c'est à peu près la même chose selon Gartner. Et puis, il y a un vrai enjeu économique. En France, la dépense informatique globale, c'est à peu près 110 à 120 milliards d'euros chaque année, hein, selon le cabinet PAC. Donc, c'est un énorme enjeu. Et sur ces 110-120 milliards, c'est en gros un quart pour les ressources humaines, un tiers pour les achats de services et le reste pour les achats de logiciels et de matériel. Donc, on a un effet quantitatif qui fait que, ben, il faut de plus en plus s'intéresser à la relation fournisseur puisqu'on dépense de plus en plus. Il y a un deuxième effet qui est un effet de diffusion des technologies et de la prise en compte du numérique au plus haut niveau. On voit bien que les métiers investissent de plus en plus et de plus en plus directement dans les technologies de l'information sans forcément passer par les DSI. Bon, il y a quelques études qui estiment qu'il y a une grosse partie des budgets, entre 20 et 30% qui échappent à la gestion directe par les DSI. Et le cabinet Gartner, qui a fait son symposium il y a quelques semaines, a révélé des chiffres intéressants que j'ai notés. Gartner, ils nous disent que 77% des directions générales veulent une implication plus forte des métiers dans l'IT, même si c'est au détriment du poids des DSI. Donc, quand même, c'est un chiffre important. Et le deuxième chiffre, c'est que 73% des responsables métiers veulent intégrer dans leurs équipes des compétences IT, donc qui ne seraient plus forcément dans les DSI. Donc, c'est un changement assez important dans la diffusion des technologies et l'implication dans les processus d'achat qui n'est plus du ressort uniquement des DSI. Autre effet qui montre que le sujet de la relation fournisseur devient important, c'est l'effet d'innovation parce que on voit que la transformation des business models de toutes les entreprises va les inciter à investir plus, à investir plus vite et à faire appel à des fournisseurs auxquels ils n'avaient pas l'habitude, avec lesquels ils n'avaient pas forcément l'habitude de travailler par le passé. Et puis il y a un effet économique. On a vu le poids de la dépense informatique et dans les entreprises, la technologie et le numérique, c'est à la fois l'un des premiers facteurs de coût, mais aussi l'un des premiers facteurs de création de valeur. Donc là, et on le voit avec toutes les initiatives dans le domaine de la transformation numérique. Donc avec ces tendances, on voit que ce sujet-là doit être géré au plus haut niveau et géré directement par les DSI, ce qui n'a peut-être pas été toujours le cas. Donc parce qu'il y a l'enjeu économique qui le justifie, il y a la pression des directions générales. Il y a une courbe intéressante qui est aussi diffusée par Gartner. Il mesure chaque année l'intérêt des directions générales pour le digital. Alors, il leur pose la question suivante, dans vos comités de direction, dans vos boards, est-ce que vous abordez les problématiques digitales ou pas? Alors, il y a 10 ans, c'était à peu près 5%. En gros, c'était pas vraiment un sujet. Aujourd'hui, c'est plus de 30%, les derniers chiffres là, sur 2022. Donc, il y a un vrai intérêt et une vraie implication des directions générales dans les technologies. Et donc, ça va faire des pressions sur les métiers et sur les DSI. Et il va falloir justement gérer un peu mieux la relation fournisseur. Et puis il y a aussi les risques de dépendance. On voit ça avec l'évolution des investissements dans le cloud. Et si la dépendance n'est pas maîtrisée, parce que la relation fournisseur n'est pas maîtrisée, ça risque de créer des difficultés pour les DSI. Donc c'est tout un tas de raisons qui font que ça doit être pris plus haut niveau. Alors, il y a deux autres éléments qui plaident pour ça. C'est que la relation fournisseur semble être, pour l'instant, le domaine le moins bien maîtrisé par rapport aux autres. Alors, si on regarde parmi les missions et les activités des DSI, selon le degré de difficulté de maîtrise qu'on en a, on peut avoir trois grandes catégories. On a ce qui est relativement bien maîtrisé. Ce sont souvent les problématiques techniques, les problématiques d'infrastructure, parce qu'on a beaucoup de référentiels, on a des bonnes pratiques, on a des compétences. Donc, ça semble relativement bien maîtrisé. Il y a un domaine qui est un petit peu moins maîtrisable, parce qu'il y a toujours des risques de se tromper, c'est la gestion de projet. Là, c'est un peu moins facile de maîtriser et de réussir à tous les coups. Et puis, il y a ce qui est encore un peu moins maîtrisable, c'est, je pense que c'est la relation fournisseur, parce qu'on peut se tromper dans les quatre dimensions que je mentionnais tout à l'heure. Hein. On peut avoir des mauvaises options stratégiques, on peut mal négocier et choisir pas forcément les bons fournisseurs pour accompagner en fonction des besoins. On peut aussi faire des erreurs au niveau contractuel, ça arrive assez souvent parce que ça n'a pas été bien intégré et pris en compte. Et puis on peut aussi rater la gestion de projet, ça c'est classique, hein, les taux de projet 1 sur 5 qui sont en situation d'échec, ça reste quand même une forte proportion. Outre le fait que la relation fournisseur est relativement moins maîtrisée que le reste, c'est un peu une zone grise, hein. Il y a aussi, à mon avis, la complexification des décisions. Là encore, si on reprend les chiffres donnés par Gartner la semaine dernière, les analystes nous disent que les deux tiers, 65% des décisions aujourd'hui sont beaucoup plus complexes à prendre que par le passé. Alors pourquoi c'est plus complexe? En fait, parce que de plus en plus, il faut prendre en compte le contexte, il faut décider de plus en plus vite, et il y a de plus en plus de parties prenantes. Et la relation fournisseur, c'est typique de cette tendance. Il y a une étude qui est sortie, une étude américaine, qui montre qu'un processus d'achat en moyenne, de solutions IT en moyenne, ça prend 6,2 mois aux États-Unis. Enfin bon, ça doit être à peu près la même chose partout. Donc il faut 6 mois pour engager et décider de l'achat d'une solution IT. Quant au nombre de parties prenantes, c'est en moyenne 20 personnes. Donc la moitié dans les DSI, la moitié dans les métiers. Donc c'est un peu plus dans les grandes entreprises, c'est 27, et un peu moins dans les PME, c'est 14. Mais donc il y a un grand nombre de parties prenantes, et si on ajoute là-dedans les équipes des fournisseurs, ça fait quand même des processus très très lourds, et ça complexifie les décisions. Donc il faut absolument maîtriser tout ça, d'autant que il y a un renouvellement permanent du nombre de fournisseurs, toujours selon une étude américaine d'IDG, en 2022, la moitié des entreprises vont faire appel à des nouveaux fournisseurs qui sont pas dans leur portefeuille, qui n'étaient pas dans leur portefeuille actuel. Mais tout ça fait que ça devient un sujet stratégique et critique pour la plupart des entreprises. Alors, il y a un certain nombre de choses qui ont changé, hein, en matière de relations fournisseurs. Par rapport à ce qu'on a connu il y a quelques années, il y a trois éléments qui me semblent importants. D'abord, le fait que les entreprises travaillent de plus en plus avec des startups. Ensuite, qu'elles intègrent de plus en plus de l'agilité. On pourrait même rajouter après les aspects responsabilité sociale et environnementale, mais ça sera peut-être plus pour le moyen terme. Et puis, il y a la place du cloud dans les systèmes d'information. Et ces trois éléments font que, on peut dire qu'il y aura eu un avant et un après, hein, donc, une sorte de rupture dans la relation fournisseur. Alors, si on reprend ces éléments, le travail avec les startups. Alors, je me souviens qu'en 2016, il y avait une étude qui était peut-être la première dans ce domaine, une étude du cabinet Bain sur les relations entre les grands groupes et les startups, donc en 2016. Et le titre de l'étude était tout à fait révélateur de ce qu'on avait à l'époque. L'étude s'appelait « David contre Goliath ». Donc c'était vraiment significatif de la situation de l'époque. Et cette étude nous disait qu'il y avait seulement 15% des entreprises qui avaient initié une démarche structurée dans leur collaboration avec les startups. Donc, c'était vraiment pas beaucoup. Alors, heureusement, ça a changé et ça a changé dans le bon sens. Il y a une autre étude qui est sortie cette année sur le même sujet et qui constate qu'il y a eu un certain nombre de changements dans les relations entre les entreprises et les startups. D'abord, il y a de plus en plus de projets de co-innovation, notamment dans les grands groupes, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Et il y a une plus forte maturité dans les projets qui sont menés et qui sont beaucoup plus alignés avec la stratégie des entreprises, alors que auparavant, on pouvait avoir de multiples initiatives et de multiples projets pilotes un peu dans tous les sens. Donc, ça s'est un peu structuré dans le bon sens. Même si, bien sûr, il y a toujours quelques points de friction entre les entreprises et les startups, notamment sur l'évaluation de la maturité des solutions. Voilà, c'est pas toujours optimal. De même, la capacité à monter en charge des startups par rapport aux besoins des entreprises, c'est pas forcément encore là aussi au point. Et il subsiste toujours des différences culturelles entre les pesanteurs de l'organisation dans les grandes entreprises et la culture numérique des startups. Donc ça reste encore des points de divergence, mais globalement, ça progresse, ça a bien progressé. Donc, et on peut dire que travailler avec des startups quand on est une entreprise, surtout si elle est grande, ça devient indispensable parce que ça permet d'abord d'amener un peu plus d'innovation que chez les grands éditeurs. Eux aussi innovent, mais c'est pas de la même manière et ça va peut-être moins vite. Ça permet de lancer des projets peut-être à moindre coût et avec des conditions contractuelles un peu plus favorables. Et puis, ça introduit de la flexibilité dans la manière de mener les projets, dans la manière de gérer la relation fournisseur. Alors, pour que cette collaboration avec les startups fonctionne bien, il y a quand même quelques facteurs clés de succès. D'abord, de pas aller trop vite, bien sûr, mais aussi de bien évaluer la maturité des solutions. Ça, je pense que c'est le point important, peut-être que les startups savent pas mettre en avant et démontrer la maturité des solutions. Donc, c'est des choses à vérifier. Le deuxième point, c'est qu'il faut, je pense, anticiper les risques d'échec. Bon, les startups sont quand même plus fragiles que les grands éditeurs. Et l'idée, c'est de maintenir une relation équilibrée, et on peut même ajouter une relation équilibrée et durable. Ça veut dire que côté DSI, il faut admettre que c'est leur intérêt, c'est l'intérêt des entreprises de favoriser le développement des startups et des écosystèmes autour des startups. Par exemple, en acceptant de communiquer sur les projets qui sont menés ou en étant un petit peu plus souple sur des aspects contractuels comme les clauses de non-concurrence. Donc, il ne faut pas enfermer les startups dans des carcans qui les empêchent de se développer. Et puis, côté startup, ça suppose que, si on veut avoir une relation équilibrée, ça suppose qu'elles, de leur côté aussi, elles s'adaptent aux contraintes des entreprises, notamment sur des points tels que le respect des délais, le respect des budgets, la sécurité ou la prise en compte des cycles de décision qui ne sont pas toujours très, très agiles dans les entreprises. Alors, le deuxième aspect où il y a eu des changements en matière de relations fournisseurs, c'est l'agilité. Alors, cette agilité, elle est à deux niveaux. Elle est à la fois dans les approches de sourcing et dans la manière de réaliser les projets. Alors, si on regarde l'agilité dans les approches de sourcing, en fait, ça va consister à introduire cette agilité, notamment dans le processus de scoring et de sélection des fournisseurs. Donc, dans les appels d'offres, il y a un certain nombre de critères qui sont retenus. Peut-être qu'il faut pondérer un peu plus la capacité à développer des projets agiles de la part des fournisseurs. Ça va donc être aussi l'intérêt de favoriser des nouveaux entrants dans les appels d'offres qui sont un peu plus agiles que des grands fournisseurs qui peuvent aussi répondre aux besoins, mais avec des processus beaucoup plus lourds. Et puis l'agilité, dans le domaine des politiques de sourcing, ça va aussi consister en interne à intégrer ça dans les relations avec les directions des achats et les directions juridiques, qui sont restées souvent un peu en silo. Hein. Historiquement, c'était chacun dans son coin. Donc il y a là aussi, sur ce plan-là, une agilité à développer. Donc ça, c'est pour les politiques de sourcing. Dans la manière de mener les projets, on connaît depuis longtemps les avantages de l'agilité. Hein. Les méthodes agiles se sont diffusées depuis longtemps, notamment pour délivrer plus vite les projets et puis faire évoluer les besoins en cours de route. Quand les fournisseurs interviennent, en fait, il y a quand même un certain prérequis. Si on veut mettre de l'agilité, il ne faut pas en mettre partout et en faire une obligation. Il faut, je crois, d'abord choisir les bons projets et notamment bien vérifier les interactions avec des autres pans du système d'information ou des environnements où les approches sont beaucoup moins agiles. Donc, faut être assez sélectif sur ce plan-là. Ensuite, il y a le problème de la disponibilité des ressources et des compétences. Donc, c'est pas facile. Surtout si dans les entreprises, la culture agile est pas bien installée. Et puis enfin, introduire de l'agilité dans les projets avec les fournisseurs, c'est de bien aussi établir les responsabilités des uns et des autres, surtout dans les projets où coexistent des parties prenantes avec l'éditeur, l'intégrateur, le cabinet de conseil, où il y a beaucoup d'intervenants. Donc, l'agilité, pour qu'elle fonctionne, il faut que ça soit quand même bien cadré au départ. Donc, outre la collaboration avec les startups, l'agilité, le troisième grand changement qu'on a vu dans les relations avec les fournisseurs, c'est évidemment le cloud. Là encore, juste deux chiffres que j'ai retenus des présentations de Gartner la semaine dernière. Ils nous disent qu'actuellement, alors en 2022, il y a 50% des entreprises qui considèrent que le cloud est absolument indispensable pour leur système d'information. Et selon Gartner, cette proportion, ça sera 90% en 2027. Donc le cloud s'est définitivement installé dans les stratégies et les investissements. Les investissements, d'ailleurs, la moitié des entreprises vont augmenter leurs dépenses cloud en 2023. Et quand on demande aux entreprises, mais combien d'entre vous vont baisser les investissements dans le cloud? Il n'y a que 1% des entreprises qui vont diminuer leurs investissements dans le cloud. Là aussi, c'est toujours la source Gartner. Donc, ce qui a changé dans ce domaine-là, c'est que on a l'impression qu'auparavant, la relation avec les fournisseurs de cloud, enfin dans le sens large, pas uniquement les fournisseurs d'infrastructures cloud, auparavant, c'était un peu considéré comme marginal parce que les applications n'étaient pas forcément stratégiques ou critiques, donc c'était peut-être pas forcément bien considéré et bien maîtrisé en interne. Mais à partir du moment où d'un côté, le cloud est devenu au cœur des business models, notamment dans l'édition de logiciels, et en même temps au cœur des préoccupations des DSI, c'est plus vrai. Donc, on peut plus considérer que la relation fournisseur avec pour le cloud, c'est comme avant. Et en fait, on voit que, d'après le cabinet PAC, le cloud, ça sera 40% des dépenses IT en 2026. Aujourd'hui, c'est à peu près 20-23%. Donc, on a un poids énorme du cloud dans les budgets. Alors, pourquoi il faut porter une attention particulière aux fournisseurs de cloud? D'abord, parce qu'il y a leur business model basé sur l'abonnement par rapport au modèle on-premise qu'on a bien connu, qui existe toujours, mais qui tend à avoir un peu moins de poids par rapport au cloud. Donc le business model de l'abonnement, ça peut créer une dépendance nouvelle à l'égard des fournisseurs. Donc il faut quand même être attentif à ça. Ensuite, on voit bien que le cloud concerne de plus en plus les applications stratégiques et critiques. On le voit avec les ERP, avec le CRM. Donc on n'est plus dans les applications secondaires ou marginales. On est vraiment dans le cœur du système d'information. Et puis, il y a un vrai sujet de maîtrise des coûts. Donc ça, c'est des éléments qui reviennent aussi, qui sont assez récurrents dans les préoccupations des entreprises. Certaines études nous disent qu'il y a à peu près 30% des dépenses cloud qui seraient gaspillées. Bon. Mais il y a donc un vrai sujet de maîtrise des coûts parce que les dérives peuvent arriver très vite. D'abord parce que la tarification des fournisseurs de cloud, alors là, plus sur les aspects infrastructure et plateforme, c'est quand même relativement complexe. Et puis, c'est difficile de prévoir l'évolution des usages et des volumes dans le domaine du cloud. Donc, il y a un vrai sujet de maîtrise des coûts. Alors, il y a des solutions. On a l'approche FinOps hein, qui permet justement d'aborder ce problème. Si on résume ce sujet relation fournisseur, je pense que c'est un domaine où la construction d'une relation durable et d'une approche gagnant-gagnant, c'est possible. Et en fait, on peut admettre que à la fois les entreprises et les fournisseurs IT ont, on pourrait dire, une communauté de destin qui s'exprime par le fait que des deux côtés, il y a le même objectif, c'est la création de valeur. Alors, chez les fournisseurs, c'est la création de valeur pour les actionnaires, chez les DSI, c'est la création de valeur pour les métiers. Mais au-delà de ça, on voit que les fournisseurs ont aussi, évidemment, intérêt à créer de la valeur chez leurs clients, c'est ce qui transparaît dans tous les discours. Et de leur côté, les entreprises ont intérêt à garantir la juste rémunération des prestations de services ou des solutions logicielles qu'elles achètent. Donc, ça veut dire que à la fois les fournisseurs doivent mieux comprendre comment fonctionne une DSI. Alors, je pense qu'il reste peut-être beaucoup à faire dans ce domaine. C'est pas toujours très clair la façon dont c'est compris. Et puis côté des DSI, il y a aussi là un intérêt à comprendre les stratégies et les contraintes des fournisseurs, même si il y aura toujours du côté des fournisseurs la pression sur les commerciaux pour vendre plus, et côté des DSI, la pression des directions générales pour réduire encore les coûts. Il y aura toujours ça. Mais je pense on peut aboutir à une approche gagnant-gagnant qui permet d'établir une relation durable. Alors, comment ça va évoluer à moyen et long terme? Bon, on ne sait pas. Cela dit, on peut quand même identifier quelques certitudes et quelques incertitudes. Alors, du côté des certitudes, on sait que l'innovation va continuer à s'accélérer. Donc, on va avoir un renouvellement des offres, un renouvellement des fournisseurs avec de nombreuses startups qui vont apparaître. Donc, il y a un changement perpétuel avec l'innovation. On est à peu près sûr que les systèmes d'information vont être encore plus stratégiques et critiques qu'ils ne le sont déjà, et qu'ils vont se complexifier. Bon, les analystes aiment bien parler des systèmes d'information composables, hein, c'est un assemblage de briques de multiples fournisseurs. Donc, ça va complexifier les systèmes d'information. Côté des certitudes, on aura, je pense, toujours des tensions sur les compétences. C'est malheureusement un problème récurrent qu'on connaît déjà depuis plusieurs années, mais qui ne devrait pas se résoudre rapidement. Et puis, on est à peu près certain que les environnements économiques, politiques et financiers vont rester instables. Donc, c'est dans ce contexte-là que va évoluer la relation fournisseur. plus les préoccupations liées à l'environnement. Alors, il y a un certain nombre d'incertitudes aussi qui font que on ne sait pas trop comment ça va évoluer. Il y a des incertitudes sur les évolutions réglementaires. Est-ce que dans le futur, on aura plus de protection, moins de protection des entreprises? On ne sait pas. On a aussi des incertitudes sur les stratégies commerciales des grands acteurs. Si on imagine Elon Musk racheter Salesforce, SAP ou Microsoft et faire la même méthode qu'avec Twitter, ça peut perturber quand même la façon de. Oui, je vois qui est Maxime, ça a l'air de vous inquiéter un petit peu. C'est pas exclu. On a aussi du côté des incertitudes. Les impacts des crises, des krachs boursiers, des guerres, enfin bon, là, on est un peu dans le brouillard. Et on ne sait pas non plus comment va évoluer la maturité des entreprises en matière de relations fournisseurs, notamment dans le contexte inflationniste actuel. Ça peut ralentir le mouvement vers davantage de maturité si, par exemple, il y a trop de hausse des prix du côté des fournisseurs et trop d'exigences de réduction de coûts du côté des DSI. Donc, c'est un peu compliqué et un peu aléatoire de prévoir l'évolution de la maturité dans les relations fournisseurs. Bon, on peut quand même rester optimiste et dire que ça va progresser dans le bon sens. Dans le sens justement d'une relation durable et équilibrée. Et donc on peut être optimiste parce que les objectifs communs entre le DSI et les fournisseurs sont quand même bien supérieurs à leur point de divergence. Et en fait, ce qu'il faut, c'est éviter qu'il y ait des déséquilibres entre les quatre dimensions que je mentionnais tout à l'heure, hein, la stratégie, le commercial, le contractuel et la gestion de projet. En fait, il faut maîtriser tout ça en parallèle. Et c'est ça qui est effectivement un peu plus compliqué. Mais ça peut se faire avec une démarche progressive. Et dans le livre, les 40 questions que j'ai abordées, il y en aurait plein d'autres, on pourrait faire un volume 2. Hein. Donc, mais dans le livre, donc les réponses à ces questions permettent d'avancer un petit peu dans cette démarche de construction d'une relation durable, bah ça sera très bien. Et si une seule idée peut être mise en œuvre, ça sera déjà un gros progrès. Donc on va y aller progressivement. Mais pour répondre à la question comment construire une relation au fournisseur durable, donc c'est possible. Ça se fera pas du jour au lendemain. Il faut y aller progressivement et travailler sur les quatre dimensions en même temps, qu'il n'y ait pas de déséquilibre pour que ça remette pas en cause la qualité de la relation avec les fournisseurs.